Bon, ce sujet est dédié pour la réfoua à la guérison complète de Mordechai ben Chana. La question de Cédric.
Donc c'est par rapport à la notion qu'amène le Ramchal de Messiah Técharim au moment qu'il parle de la dévécoute.
Traduction en français.
De l'adhésion à Hachem.
Adhésion. Très beau nom.
C'est comment aujourd'hui sentir qu'on est proche d'Hachem, parce qu'on n'a pas le choix, c'est notre but de se rapprocher d'Hachem, tout en étant très 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 éloigné. Qu'on ne parle pas, on ne voit pas, parfois on doute, etc. Mais on n'a pas le choix, on se doit d'être proche d'Hachem. Donc comment résoudre ce paradoxe aujourd'hui d'être à la fois proche d'Hachem tout en étant éloigné?
Effectivement, il y a une mitzvah de base dans la Torah qu'on dit trois fois par jour. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton corps, toute ton âme, tout ton pouvoir. Et ça ne doit pas être des paroles en l'air. C'est-à-dire qu'on doit avoir une relation d'amour avec Hachem. Amour. Il est clair que c'est un degré. Il est clair que c'est une chose qui s'acquiert lentement, à pas de fourmi. Mais il est clair aussi qu'il est dur de passer à côté. Parce que c'est une des choses basiques du judaïsme et de la vie, je dirais. J'ai pensé dernièrement, ce matin encore, j'ai pensé au bonheur de ce monde. On a tous des ta'avot, des envies, d'accord ? Pense à l'envie. Tu vis, voilà, tu as certaines envies. Ok, tu réalise, tu jouis de ses envies dans ce monde. On va dire, t'as envie de quoi? T'as envie de brochettes, d'accord? Des merguez. T'as envie de pastis. T'as envie de bocha, d'accord? T'as envie de filles. C'est aussi de la chair. Tu assouvis ton envie. Et quoi? Qu'est-ce qui se passe dans la vie après? Ben, l'envie revient. Et bon, on va de nouveau aller assouvir. Et l'envie revient. On assouvit. Chacun, il a ses envies, d'accord, hein? C'est les vacances, l'autre, c'est le week-end, lui, c'est gagner sa paie. C'est... Mais ça mène à quoi? Ça mène à quoi? Il y a en nous enfoui une faculté d'amour. J'aime pas ce terme amour, on va dire un mot qui va tous plus nous toucher. Un intérêt. On a un intérêt, on a une recherche, on a une quête de choses qui nous touchent plus. C'est vrai qu'au niveau animal, il y a ça. Les envies, et ça te assouvir, satisfaire, encore. Mais peut-être dans la jeunesse, ça satisfait. Je pense qu'assez rapidement, ou même chez des jeunes qui sont plus profonds, on recherche quelque chose de plus grand. On recherche quelque chose de transcendant. C'est un mot un peu savant, mais qui dépasse. Transcendant, d'accord ? Ça monte et ça dépasse, ça traverse ce bas monde. On veut quelque chose qui... un amour, un intérêt... une mission, une quête, une vérité, d'authentique qui nous touche. Et c'est ça, l'amour d'Hachem. Avec le temps, ça se traduit beaucoup plus par un amour d'Hachem, comme l'amour d'une femme, avec des sentiments, avec une relation, et c'est un très haut niveau. Au début, au niveau qui nous concerne à nous, c'est un intérêt. Un intérêt pour le vrai. Comprenant que ce que le monde me propose est certes sympathique, attirant, mais petit. Ça n'assouvit pas notre soif. Ça revient. Alors c'est vrai que pour pallier à cette crise, et il y a une crise dans ce monde actuellement, une crise morale du pourquoi, on recherche des nouveaux plaisirs. Et dans tout, tu as toujours mieux. Tu avais un tour de shampoing normal, après c'est shampoing plus, après shampoing double plus, après shampoing... D'accord, c'est tout, les brosses à dents, les trucs, tout, c'est encore mieux, encore truc, encore nouveauté, encore un, sans cesse. Les jus ici en Israël, je vois, tu as les jus de fruits, d'accord, toujours plus. Alors, un temps, tu avais le jus d'orange, bon. Après, ils ont mis jus de pomme, jus de pomme, ok, jus de poire, jus de tomate. Après, ils ont commencé jus de mangue, c'est un truc nouveau. Jus de pastèque, on ne connaissait pas ça. Maintenant, ils ont commencé le mélange, poire, mangue. Après, fruit de la passion, poire. Après, pêche, ananas. Melon, allez, et tac, 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 encore toujours plus, pourquoi, pourquoi, pourquoi? Alors bien sûr, il y a la société de consommation, la consommation, etc. Mais on veut faire croire aux gens que s'ils n'ont pas goûté le dernier truc de plaisir de Olam Hazeh qui est sorti, ils passent à côté. Et que ça les met en quête. Une quête, moi je veux maintenant attraper ce nouveau produit, cette nouvelle voiture, ce nouveau PC, ce nouveau truc. J'ai une nouvelle quête, donc je suis tranquille. Pas qu'on me dérange maintenant avec la vraie quête. Je suis occupé à ma petite quête, je suis occupé, ça va, j'ai de quoi remplir ma vie. On va soi-disant remplir notre vie avec cette petite quête minuscule de rien du tout. Et passer à côté de la grande quête. Quelqu'un qui dit profond. Je cherche maintenant quelque chose qui dépasse tout ça, qui transcende. Et si on comprend ça bien, alors on court vers la Gemara. On court prier Hachem, parce que c'est une relation qui vraiment transcende tout. Parce qu'Hachem, c'est le vrai sens de moi-même, c'est la vérité. C'est éternel, son nom qui était et sera. On a une soif de vie, alors... La recherche de plaisir, on a parlé l'autre jour de l'orgueil, d'accord ? Toi-même pose la question, d'où vient l'orgueil ? On m'a dit que l'orgueil provenait d'un désir de vivre. On est à l'image de Dieu. Dieu, son nom, c'est Yud Kevavke, celui qui était et sera. On veut sentir qu'on vit. Comment je vis ? Quand je sens que je suis. Je suis. Je suis. Orgueil. Il y a aussi une autre vibration qui montre que je suis, le plaisir. Le plaisir, c'est je suis. C'est la même source. Je suis. Quand je vibre, quand j'ai du plaisir, je suis. Mais on veut un vrai je suis. Et le vrai je suis, d'où le vrai plaisir, d'où la vraie raison de soi-même, elle est dans un autre domaine tout complètement. Qui forcément doit dépasser le monde temporel, le monde physique. Parce qu'on n'est pas que physique. Il y a beaucoup plus. Tu sens bien qu'il y a... Alors comment réaliser cela ? D'abord, il faut beaucoup en parler, beaucoup y réfléchir. Quand on vit dans le monde sans réfléchir à ces choses-là, alors on est happé par ce monde. Et ce monde, il propose tout. Tous les bienfaits du monde, de ce monde, d'accord ? Tout, comme je dis, on peut aller de plaisir en plaisir en plaisir toute sa vie et mourir un mètre sous terre sans avoir un moment effleuré notre vrai sens. Mais si on réfléchit à ce que je suis en train de dire, et on y pense, et on en parle très rapidement, tous les plaisirs qu'on propose dans ce monde-là n'ont pas de goût. Et puis aussi, au bout d'un moment, l'âge qui fait, d'accord, 35 ans, 40, 45. L'Arbitre, il a dit que les hommes, ils ont des crises. Des moments de crise dans la vie, de remise en cause. Ça peut être grave, des fois, ça arrive à des divorces. Il y a 14-18 et 39-45. L'Arbitre, il a dit. À 14-18, c'est bien, parce que tu te mets en question, tu bon, c'est la révolution, la révolte contre tes parents, pourquoi je vis, là, 30-45, ça fait des dégâts, tu quittes ta femme, tu quittes tes enfants, c'est beaucoup de mariages à cet âge-là, ou des femmes aussi, qui pètent un câble en bon français. Pourquoi ? Parce que tu vas dans une direction, tu t'investis, études, diplômes, paye, réussite, ok. Et un beau jour, 35-40, 39-45, on commence déjà les premiers signes, les premiers cheveux blancs, etc. Il y a une certaine lassitude. Alors, si tu es vraiment petit, bon, tu réinvestis dans encore plus d'argent, encore plus de plaisir, encore plus de vacances, encore plus de voitures, encore plus de tata. Mais si tu es un peu plus profond, tu te poses une question basique. Ok, et pourquoi tout ça ? On change de femme, au moins c'est un autre plaisir, c'est de nouveau une aventure. Hop ! C'est passé à côté, non seulement que Stam, c'est la pire chose qu'on puisse faire sur Terre, c'est toute une femme qui t'a tout donné et tu l'abandonnes comme ça pour une imagination. Mais il y a un âge où justement ces questions deviennent beaucoup plus fortes. Pourquoi tu vis ? Donc ça veut dire qu'il y a chez nous enfoui un amour de la vérité. Et quand le Ramchal parle de Dvekut, d'adhésion à Hachem, il parle de cette chose-là qui a été cultivée et amplifiée. À un moment, on devient amoureux de la vérité, un grand amoureux de la vérité. Et tu verras que durant l'histoire, les êtres humains ont réussi, grâce à l'amour de la vérité ou l'amour d'un idéal qu'ils avaient, à faire des choses inhumaines. Les plus grandes révolutions, les sacrifices de soi ont été faits par des gens qui avaient un idéal. Donc cette force, elle se trouve dans l'être humain. Et si on est vraiment dans la vraie vérité, parce qu'il y a des fausses vérités évidemment, quand tu es dans la vraie vérité, tu as des puissances colossales qui te poussent à cela. C'est l'amour d'Hachem. À côté de faire une mitzvah, il faut réfléchir pourquoi je la fais. Je la fais pour ne pas aller en enfer. C'est le niveau le plus bas. Je la fais pour avoir une bonne vie sur Terre. Pas me conduire, pas avoir de sale maladie, shalom bayit. Deuxième niveau. Bon, presque un peu moins nul que le premier. Troisième niveau qui nous concerne tous, Olam Haba. T'as une banque, t'investis. Une mitzvah, shkling, d'accord. T'imagines quel compte tu as, le compte mauvais, l'avérote, le compte bon. Très dur de se défaire de cela, parce que c'est aussi, en fin de compte, on n'est pas dans l'amour de Hachem, on est dans l'amour de soi. Et, lentement, on peut associer aux motivations de la mitzvah, on peut associer à Olam Haba, la récompense d'Olam Haba, on peut associer aussi un peu d'amour d'Hachem. Et notre job sera que ce petit pourcentage d'amour d'Hachem aille en grandissant et que le pourcentage de motivation provenant de Olam Haba diminue. Pour arriver à un moment où on sent un amour d'Hachem. Je fais la mitzvah maintenant. Un jour, je ne comprenais pas. Quand je fais tshuva, je prenais, il y a dans les sidurim, pour unir Kushaberichu, donc littéralement le saint béni soit-il, j'aime pas cette connotation chrétienne que ça, avec Sashrina, pour unir Yudke et Vavke, Bechodashim en union totale, la soie de Rosenboren, pour faire la volonté de notre Créateur, Venachat Ruach Liotzren, et le faire, Nachat Ruach, quelque part, du plaisir à notre Créateur. Moi, ça ne rentrait pas. Plaisir à notre Créateur, bon, je fais pour Yichou, il y a une Kabbalah, je veux bien, ça fait des trucs, ça fait des machins, je fais pour que ces machins aient lieu. Mais pour faire plaisir à mon Créateur, bon, là, je vais même lui faire plaisir. Mais ce n'est pas comme je fais plaisir à ma femme. Quand je fais plaisir à ma femme, j'ai du plaisir à faire plaisir à ma femme. Plaisir à mon enfant, j'ai du plaisir à faire plaisir à mon enfant. Je n'ai pas de plaisir à faire plaisir à Hachem. Et là, monsieur, avec le temps, ça vient. Et ça, il faut s'investir. Comment ? Ne croyez pas que je suis un grand sadique. Ça arrive de temps en temps, quand on y pense, etc. Mais ça peut, on peut arriver à un niveau où on est en relation avec Hachem, où on veut faire plaisir. C'est une histoire d'amour. Celui qui n'a pas vécu ça ne sait pas de quoi je parle. Comment on y arrive ? Avec la conscience. Le seul moyen de réveiller ces parties enfouies de l'âme, c'est avec la conscience des choses. Quand on en parle, quand on fait attention, quand on te dit maintenant, je fais la mitzvah, pourquoi je la fais ? J'analyse maintenant, je m'analyse. Qu'est-ce que je gagne ? Je suis en train d'étudier maintenant. Qu'est-ce que je veux ? Olam Haba, faire du bien à Israël. Ou bien j'ai la joie maintenant de connaître la volonté d'Hachem. Ça, c'est déjà un degré d'amour. Je connais, j'étudie la Torah d'Hachem. Comme tu aimes ta femme, tu veux savoir qu'est-ce qu'elle pense. Tu es passionné par ce qu'elle raconte. T'aimes Hachem, tu es passionné par ce qu'il raconte. Et ça, c'est certain que beaucoup d'étudiants ont cela. Tu ne vas pas étudier maintenant pour Olam Haba. Tu ne dis pas maintenant pour que il y a moins de pauvreté et moins de maladies dans le monde. Tu étudies parce que tu as un attrait à ça. Mais quoi, ça ? Ça en soi, ce n'est pas des choses phénoménalement extraordinaires. Quatre sortes de aves, de paires, de nézikines qui font du mal. Le feu, il est différent que le trou est différent que la corne. Qu'est-ce qui t'attire ? Tu restes des heures là-dedans. Tu cherches qu'est-ce que Hachem dit ? Qu'est-ce que Hachem veut ? Maintenant, on s'oublie en étudiant. Il faut se rappeler de cela. Hachem dit, Abaye dit. Hachem dit, Abba Avot Nezikin. Cette branche avec Hachem. Pensez à ces choses-là. Tu veux faire une mitzvah maintenant ? Pense pourquoi tu l'as fait. Et pense que tu te mets en relation avec Hachem. Pense que tu investis dans la vérité. pas investissement afin de recevoir. Tu investis et tu te réalises. Tu fais une chose maintenant qui fait partie du monde des choses qui vont rester. Tout le reste ne reste pas. Tous les plaisirs de ce monde-là disparaissent. Là, tu investis dans une chose qui va rester, qui est, comme Hachem est, ça est. Je l'ai raconté souvent, je l'ai répété, le mot mitzvah. La mystique juive Tikkun Zohar, il dit que tu prends les deux dernières lettres du mot mitzvah, ce sont les lettres Vav, Hei, qui sont les deux dernières lettres du nom de Dieu. Les premières lettres du mot mitzvah sont même tzadik en atbash. Atbash, un alphabet kabbalistique où pour chaque lettre, on prend la lettre qui lui correspond à l'envers. C'est-à-dire, la première lettre correspond à la dernière. Aleph correspond à Taf, At. Bet correspond à Shin. Gimel à Resh. Dalet à Kouf. At, Bash, Gar, Dak, etc. Les lettres même tzadik en atbash correspondent aux lettres Yud et puis Hei. Donc, tu obtiens le mot mitzvah, même tzadik vav hei. Les deux premières lettres en atbash sont yud et puis hei. Et il reste vav et puis hei. Ça fait yud ke vav ke, le nom de Dieu. Une mitzvah égale une réalité d'être. C'est quoi yud ke vav ke? Était et sera. Ça est. C'est une réalité. C'est éternel. C'est. On ne sait pas qui est Hachem. On ne sait pas comment le qualifier. Il y a un mot. Ata Hashem Elohim, Emet, tu es Emet. Udvarcha Kayam Laad. Udvarcha Hashem Elokeinu Kayam Laad. Et ta parole, Kayam Laad, existe pour l'éternité. La mitzvah, qui est une parole d'Hashem, une ordonnance d'Hashem, elle est une réalité d'éternité. Comment ne pas vouloir aimer, s'investir pour se réaliser dans ce qui est éternel, dans ce qui est? Qu'est-ce que tu as d'autre dans le monde qui peut équivaloir à cela? Dis-moi quoi? Les merguez? Des filles? Ok, t'as vu, t'as une soif, t'as une pulsion. Mais c'est imaginatif. Sur le terrain, c'est court, c'est rien, c'est pas grand-chose. Qu'est-ce que t'as après? Quoi d'autre? De l'argent? Ok, alors t'as un pouvoir de quoi? T'as un yacht, t'as un bateau, t'as un Mercedes, t'as deux villas, t'as trois villas, quatre villas, cinq villas. Je connais une communauté où ils sont tous millionnaires. Très pauvres. C'est quoi être pauvre? Pauvre, c'est quand il te manque de l'argent. Moi, il manque de l'argent. Combien il me manque? Quelques milliers de shkalim, grand maximum. Lui, il est millionnaire, il a 15 millions. Son voisin a 30 millions. Le premier, combien il lui manque pour être comme son voisin? 15 millions. Il est bien plus pauvre que moi. Il bosse jour et nuit. Il bosse jour et nuit pour encore un million et encore un million. C'est une pauvreté terrible. Esclavage d'une concurrence. Tu as tout ce qu'il faut pour toi, tes enfants, arrière-petits-enfants, arrière-arrière-petits-enfants. Investis dans ce qui est vrai. Non, j'aime faire l'argent. Yeah. Ta'avat mammon, l'amour de l'argent, ça existe. Et l'un est proportionnellement inverse de l'autre. Quand on a l'amour de l'argent, on ne peut pas avoir l'amour d'Hachem, ça ne marche pas ensemble. L'amour d'Hachem provient d'un moindre amour de Olam Hazeh. Toutes ces choses-là, si on réfléchit bien, elles amènent à vraiment pas grand-chose. Et par rapport à Hachem, par rapport à la réalité, la vraie réalité de moi-même, à Yudke Vavke, à Mitzvah, c'est que je réalise maintenant une chose éternelle. Quel point ça? Rien de rien, rien de rien. Quand tu réfléchis à ça, tu es amoureux. Tu es amoureux. Et peu à peu, tu penses à celui qui t'a donné cela. Tu t'adresses à lui. Un des grands moyens d'arriver à l'amour d'Hachem, c'est la prière. La prière dans le Talmud, elle appelée Rachamim. Rachamim en araméen, c'est pas miséricorde, c'est amour. Période d'amour. Un mari qui aime sa femme, qu'est-ce qu'il fait? À une heure, au boulot, il appelle. Ça va? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Non, je veux te dire que je t'aime. Bye. Pourquoi? Contact. Ben non, on a ta shachrit, tu l'as vu ta femme, mincha, arvit. Dire Hachem, je suis en relation avec toi. Le Talmud appelle cela amour. Amour, c'est je t'aime. Donc c'est sûr que la prière est un moment où on se met en relation avec Hachem. Pensez à tous les bienfaits qu'Hachem nous fait. Comment ne pas se remplir d'amour pour lui? On est tellement gâtés, tellement blasés qu'on ne voit pas. Des gens qu'il faut aller convaincre. Ils ont des problèmes dans la vie. Il faut leur convaincre, regarde combien Hachem te donne. Quoi? Il ne m'a pas donné ça, il m'a envoyé ça, il m'a envoyé ça. Quoi il m'aime? Mais regarde combien il te donne, tous les jours sans cesse. Mais c'est pour lui qu'il t'envoie, c'est de l'amour. C'est bon, c'est un autre degré comprendre cela. Mais tout le bien qui se traduit en bien, tu vis. Quelqu'un qui a la santé, il a la santé. C'est connu, tu vas à l'hôpital. Voyage de tourisme à l'hôpital, 5 heures. Tu fais toutes les marlacotes, qu'on dit marlacotes en français. Tous les services, départements. Oncologique, cœur, d'accord, maladie de, je sais pas moi, chirurgicale, machin. Tu sors. Tu danses. Baruch HaShem. Et tous les jours, Baruch HaShem, comme ça. T'es choyé par HaShem. Par HaShem, c'est quoi HaShem? C'est pas... Créateur du monde. Kone Hakol. Détenteur de tout. Aucun être humain peut imaginer la grandeur de l'univers. Et par rapport à HaShem, c'est pas un grain de sable. Shum davar. Et Hachem, il t'aime, il t'écoute, il te protège. Chaque seconde, il pense à toi. Qui n'a pas vu? Sauf attention, c'est tous les jours, des petits détails de rien. Au bon moment, tac, c'est arrivé. Tout la page à la bonne page. T'arrives, l'ascenseur, tac, tout ce qu'on t'arrive, il est là. Il vient d'arriver. Ça arrive, des trucs comme ça. Le parking, tac, il y a un type qui sort. T'avais une chance sur 20, une chance sur 30, une chance sur 50. Tu vois? Ça, c'est des petites choses de rien, mais comme je dis, tu vis.
Peut-être que pas autrement, on l'a pas eu.
Pardon? Des fois aussi que... Ouais. Statistiquement parlant, tu veux dire.
Voilà, pour faire votre marque, pour qu'on sente que ça défile
les statistiques. Ouais, mais des fois, ça défile les statistiques. C'est des choses qui sont petites.
Parce que c'est le hasard, hein. C'est pas HM. C'est le hasard, l'ascenseur.
Comme il dit Avi, on parle maintenant que le point statistique, c'était... Il y avait peu de chance, trop peu de chance. Tu joues au dé, tu fais 6-6. Bon, c'est hasard. Tu refais 6-6. T'es chanceux. Tu refais 6-6. Ah, bien. 4 fois 6-6. Pas normal. 10 fois 6-6. Les dés sont pipés. Dans la vie, on ne voit pas 10 fois 6, on voit 4 fois 6-6. Ouais. Comment se fait-il? Regarde le monde de la Torah en Israël. Tu as des dizaines de milliers de familles, peut-être des centaines de milliers, qui vivent, on ne sait pas comment, difficilement. Ils ont des familles nombreuses, marient leurs enfants, ici pour marier il faut allonger, ils ne savent pas d'où ça vient. Et ça fonctionne. Le monde orthodoxe israélien, c'est un miracle ambulant. Comme Israël, par rapport aux nations, c'est un miracle ambulant. C'est anormal. Dans Israël, tu as Israël par rapport aux nations. Le monde orthodoxe par rapport au reste du pays. C'est un miracle dans le miracle.
Pourquoi un miracle? Il y a plein de noms, il y a plein de choses.
Ça, c'est d'accord, on ne sait pas d'où ça vient. Bien sûr que ça vient des dons, ça vient de la famille.
Tout le monde s'en fait.
Ça vient de dons.
Non. Hein?
Pourquoi ils vont plus là, les dons?
On ne sait pas d'où ça vient. Il y a des dons, c'est certain qu'il y a des dons. Mais ça ne peut pas tenir.
Une famille, elle reçoit 5000 shekels à la fin de son mois. La base, elle avait zéro. Et c'est comme ça, c'est arrivé comme ça. C'est pas possible. C'est qu'il y a un don, il y a quelqu'un qui fait un don. Ah oui, c'est
le conseil de Salien, c'est déjà. Le Rav Il a 11 enfants. Vous savez ce qu'il vient de travailler chez Vaïssi, vous n'avez pas de paye. Il n'avait pas de paye. Il recevait une paye misérable de Kollel, 2000 shekels. Sa femme ne travaille pas. Comment tu fais? Et il loue un appartement. Comment il fait? Demande-lui. Il ne sait pas.
Il s'engage jusqu'à trouver une solution pour rembourser avec son
blanc. Il ne te dit pas ça. Il dit, je ne sais pas. Et tu en as 10 000 comme lui, comme ça, en Israël. Alors, je ne sais pas quelle fée qui arrive tout à coup et... Mais c'est presque ça. Presque ça, on ne sait pas. Il y a les notions de bracha. Ça rappelle maintenant le... Alors, Ben Sion Abba Shaoul. Son fils racontait que son père lui a raconté. Bon, il vivait, quand il est né, son Ben Sion Abba Shaoul, c'était en 1924, je crois. Il vivait ici en Israël, une pauvreté terrible. Son père était cordonnier. Il n'y avait pas de magasin. Cordonnier itinérant. Sa femme ne travaillait pas. Alors, monsieur était très malade. C'est petit bébé. Il tombait malade sans cesse. Chaque fois, aller chez le médecin, il fallait payer de l'argent. Il fallait payer 2 grouches. Plus de médicaments, encore de l'argent. Et une paire de chaussures qu'il vendait, c'était 6 grouches. On ne vend pas tous les jours des chaussures. Et la mère voyait son fils malade, il avait des maladies sans cesse. Et il était sous de peau, je crois. Elle n'avait plus d'argent pour aller voir le médecin. Elle a éclaté en sanglots. Elle s'endort. La nuit, elle voit un homme avec une grande barbe blanche comme ça venir lui dire « Demain matin, tu vas te lever. Tu auras dans ton porte-monnaie une pièce d'or. » Vend cette pièce d'or. Avec cette pièce d'or, la parnassa va aller beaucoup mieux. Et pour ton fils qui est malade, demain matin quand tu te lèves, tu vas à la synagogue, il y aura là-bas une brit mila. Tu prends l'eau dans laquelle le mohel, le circonciseur, il va laver ses instruments après avoir fait la brit mila, tendu avec cette eau, ton fils il sera plus malade. C'est le matin, elle va dans le porte-monnaie, pièce d'or. À la synagogue, brit mila. Elle prend l'eau, enduit son fils, dès lors, plus de maladie, la pièce d'or. Elle dit c'est avec son mari qu'ils achetaient un petit magasin pour cordonnerie, et elle a commencé à une cordonnerie. Lui-même a commencé à embaucher, et ça allait beaucoup mieux. Et le rave lui a dit, dans le rave lui a dit, ton fils sera un des grands de la génération, en Torah. Alors, des fois, ça va être comme ça avec une pièce d'or. Mais, pas besoin qu'on ait ce rêve et une chose pareille. Hachem, il aide. Tu vois qu'Hachem, il aide, c'est indéniable. Prends-nous les rachets yeshivot. Comment ça fonctionne un truc pareil? Un beau jour, j'ai décidé que j'allais commencer à parler aux gens pour leur montrer que la Torah était vraie. J'ai donné ici à Baal Tshuva. Il y avait les systèmes Arachim où ils montraient avec des profs, ça n'existe pas en français. Je dis, on va commencer à faire en français. On commence à faire en français. Et en fait, pendant j'ai commencé en 86, en 90, 4 ans plus tard, je suis à Montréal, un type me dit, un jeune homme, il ramenait beaucoup de gens au séminaire, un petit jeune homme de 17 ans et demi, il dit, on veut un suivi. Ouvrez une yeshiva. Ouvrez une yeshiva. Ok, il me convainc. Je reviens, je vois le Rav Elbaz de Or Haïm, je lui dis, je vais ouvrir une petite section française. Il dit, oui, on l'a ouverte, on l'a fermée, voilà. C'est moi qui paye les profs, donnez-moi les locaux, c'est moi qui paye les profs. Il accepte. Donc pour la petite histoire, c'est sympa parce que je vais montrer où c'est. Il montre un appartement comme ça, escalier qui monte, appartement. Tu sais où tu es, non? C'est l'appartement de ton arrière-grand-père. J'ai commencé à aller chez Eva dans l'appartement de mon arrière-grand-père. Et je voulais un prof, je me souviens. Il me fallait, je crois, 900 dollars, j'avais que 800 dollars. J'avais mon budget, 900 dollars, 800. Je ne pouvais pas. J'avais 800 dollars. Comment j'arrive? Quelques années plus tard, un bâtiment pareil, je peux savoir? Tu peux m'expliquer ça? J'ai pas la moindre idée. J'ai pas la moindre idée. Mais c'est clair qu'Hachem, comment on finit le mois tous les mois ici? Combien coûte à Yeshiva? D'où ça vient? D'où ça vient? Mais on est sustenté de A à Z, il n'y a aucun doute là-dessus. Hachem, il est là. Et il nous le montre. Parce qu'on va, quand on va faire de l'argent, ça c'est un truc archi connu, tous les rabbins qui ont fait de l'argent. par l'étranger, ils ont la liste des donateurs. Bon, lui, je l'ai qui voit combien, lui combien, lui combien. Chacun, on imagine combien. Mais la chose de bonté, il fait comme ça. Celui que tu croyais donne rien du tout. Celui que tu croyais pas du tout, tac, ça vient par là. Ce que tu croyais voir par là, ça vient par là. Et les mêmes sommes. Je m'attendais à ça, rien. Du coup, paf, ça arrive la même somme par un autre endroit. Je te montre, c'est moi qui te donne. Et c'est évident. Le monde de la Torah, comment il vit? Comment ça coûte, ce monde de la Torah? Les dons, c'est bien gentil. Je vais avec une dernière histoire. Tout ça pour arriver à ton point, hein, qu'il faut voir la main d'Hachem. Elle est là, mais on est tellement blasé qu'on ne fait pas attention. C'est normal que je vois, c'est normal que je respire, c'est normal que je réfléchisse, c'est normal que je sois juif. Rien n'est normal. C'est tout des cadeaux d'Hachem, complètement fou amoureux d'Hachem. Il faut noter, il faut écrire tous les jours. J'avais un élève qui est très négatif. Il a souffert dans sa vie, très négatif. Ah, Hachem, il ne m'aime pas. Regarde tout ce que tu as de bien. Note tous les jours, 5 bienfaits qu'Hachem t'a fait. Il n'arrivait pas à avoir 5 bienfaits, alors qu'il y en a 50 000 quotidien. Regarde la nature de l'être humain. Tellement c'est parfait. Plus la médecine avance, plus ça voit. Ça n'existe plus aujourd'hui un médecin généraliste. C'est impossible, il a un peu nul en tout. Parce que pour bien connaître chaque organe, il faut être un spécialiste. Tellement c'est compliqué, il y a des lois qui gèrent, des lois. L'histoire que vous voulez vous raconter, j'ai déjà raconté ça une fois. Mon voisin, il a un gmar. Un gmar, c'est donc un organisme de prêt sans intérêt. Beaucoup de gens qui ont... Ça aussi m'a dit, c'est un vrai miracle. Mais dans aucun pays normal, t'as un truc pareil. Je crois qu'il roule avec 150 millions, 50 millions, 100 millions, 150 millions de dollars, d'accord? Des gens qui ont de l'argent. Ils ne savent pas quoi en faire. Ils peuvent mettre à la banque avec 1 ou 2 pourcentages, ils donnent chez lui. On va avoir le pourcentage, ils ont le pourcentage dans Olam Haba. Lui prête aux gens qui ont besoin. Mais c'est un miracle en soi que dans aucun état normalement constitué, l'État permet un truc pareil, parce que ça peut être beaucoup de blagues. D'accord? Comment tu laisses qui, quoi, quoi, d'où ça vient, comment ça rentre, d'où ça part? Bizarre. Ils ont eu des descentes du fisc. Chaque fois, ils voient les gens, il y a des miracles chaque fois. Étant donné qu'il est très occupé à cette histoire d'argent, il est au courant de tous les grands problèmes qu'il y a en Israël. Un grand problème du logement. Ça coûte très très cher. Les familles n'ont pas de quoi acheter. Il vient me voir un jour, il me dit, j'ai un ami, un type que je connais, c'est un génie. Et il a mis au point un système pour résorber la crise du logement. Très compliqué, mais en fait ça règle tous les problèmes. Et ben il m'a dit qu'il était avec parce que lui connaît tous les grands de la Torah, parce qu'il est très proche de lui à cause de cet organisme de prêt qu'il a. Il allait voir les grands de la Torah, 2 ou 3, Rav Eliashiv, Rav Shmuel Orbach, le Rav Steinman. Tous, sans se concerter, ont donné la même réponse. Ils ont dit comme ça: ce qu'on vit aujourd'hui dans le monde orthodoxe, c'est un miracle. Pourquoi toucher ça? Tu veux arranger? On ne comprend pas comment ça marche. Ça marche. C'est difficile. Mais ça marche. Ça marche. Pourquoi venir toucher ça? Comme si tu étais dans le désert maintenant. Ah, Israël dans le désert, sort d'Égypte. Il y a une solution maintenant pour amener nourriture tous les jours. On va amener maintenant un convoi, tout ça. On va récolter du sable précieux dans le désert, avec des herbes. On va les vendre là-bas. On va recevoir de l'argent pour avoir... Écoute, la manne tombe tous les jours. Pourquoi? T'as un miracle tous les jours. Pourquoi te casser la tête pour arranger le problème? Le problème, c'est que la manne, on n'a pas dans la maison. Il faut attendre que ça vienne. Il faut être comme ça envers Hachem. C'est vrai. Et quand on est en relation comme ça envers Hachem, et bien Hachem, il remplit. Achev picha vamelo. Ouvre ta bouche que je la remplisse. Mais il faut ouvrir la bouche. Il faut être en demande devant Hachem. Il faut être en relation avec Hachem. Quand on est en relation avec Hachem. Quand on fait attention au bienfait d'Hachem. Quand on est en demande du manque qui... Je sais que ça vient de toi et je compte sur toi que ça viendra. Et mes yeux sont levés vers toi. Hachem, il remplit. Faut y penser simplement, pas rester mort. Quand on pense pas, c'est une chose à laquelle on ne pense pas, elle est morte, elle n'existe pas. Quand on pense, on la fait vivre. Si on veut réveiller chez nous ces choses-là, il faut y penser. Et là, on devient des vrais amoureux d'Hachem. Baruch Adonai, l'Olam Amen.